C'est un appel à la mobilisation le 15 mars prochain. Mais il ne faut pas se tromper, comme tous les appels, en fait, c'est déjà une mobilisation. Quand on lance un appel, dire, c'est déjà faire, c'est une action. Et cette action, pour l'environnement et le climat en l'occurrence, qui ne concerne pas que la jeunesse de France, mais celle du monde entier, elle a donc déjà commencé, elle est en cours, elle est là. Initiée par une adolescente suédoise qui s'appelle Greta Thunberg, et elle invite à une grève des collégiens, lycéens, étudiants de tous les pays, une grève qui nous renvoie à notre inaction, nous qui sommes leurs aînés. Une grève qui, elle aussi, a déjà commencé. Tous les vendredis, en Suède, ces fameux vendredis verts qui se sont propagés au Danemark, en Finlande, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Suisse, mais aussi en Australie, au Canada, au Japon, aux États-Unis, avec cette même question qui nous est renvoyée, à nous qui sommes leurs aînés. Pourquoi devrions-nous travailler sur notre avenir s'il n'y a pas d'avenir? C'est une bonne question. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas qu'une question, c'est un appel, une mobilisation et donc une action. Agissons.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quel œil mon invité d'aujourd'hui regarde-t-il cette jeunesse qui s'éveille et qui agit, metteur en scène, comédien, mais aussi directeur du Théâtre National de Strasbourg? C'est à la Colline qu'on le retrouvera dans deux semaines pour Qui a tué mon père, le très beau texte d'Édouard Louis, dont il est à l'origine, puisque c'était une commande de sa part, texte de confrontation, texte politique, texte d'amour aussi. Bonjour Stanislas Nordet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Avant toute chose, qu'est-ce qu'elle incarne pour vous cette jeunesse qui se mobilise aujourd'hui, cette jeunesse dont on dit trop souvent qu'elle ne s'intéresse pas à la politique?
Ben moi, ça incarne tout. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, c'est la question de l'engagement, simplement. C'est tout d'un coup regarder autour de soi, avoir envie de vivre, avoir envie de continuer. Et puis, ce que je trouvais formidable dans ce mouvement-là, dans cette jeune fille-là, la figure de cette jeune fille suédoise, c'est tout d'un coup exactement ça. Ça contredit tout ce qu'on dit partout, c'est-à-dire que les jeunes sont désengagés, que les jeunes ne pensent qu'à consommer, ce qui est absolument faux. Ils ont un regard au contraire extrêmement aigu sur aujourd'hui. Et puis, je sais pas, c'est une espèce d'exemple incroyable d'une évidence, quoi. Tout d'un coup, là, c'est eux qui vont vivre demain, c'est à eux de s'emparer des choses, et ils le font. Donc je trouve ça extraordinaire. Je suis un optimiste de nature, mais je trouve ça extraordinaire parce que ça illustre la beauté, finalement, de notre regard sur le monde.
Mais peut-être que cette jeunesse, surtout, elle parle, elle pense, mais on l'écoute pas vraiment. Comment faire pour que sa parole soit davantage prise en compte, davantage écoutée?
Bah ça, c'est toute la question de à qui on donne la parole en général, à la fois dans les médias, mais aussi sur les scènes de théâtre. Hein. Ouais. C'est aussi une des raisons de mon choix pour le texte d'Edouard. C'est-à-dire, tout d'un coup, comment est-ce qu'on met dans la lumière ceux qui n'ont pas la parole, ceux à qui on ne la donne jamais? Parce que la question aussi, c'est à qui on donne la parole et pourquoi on la donne.
Vous essayez sans cesse d'intégrer, en fait, des paroles et des aspirations de la jeunesse dans votre travail aussi de directeur du Théâtre National de Strasbourg?
Ah bah oui, si j'ai choisi de diriger le Théâtre National de Strasbourg, c'est parce qu'il y a une école.
Oui.
À l'intérieur du théâtre, il y a une école avec 50 jeunes gens qui foutent le bordel tout le temps à bon escient, c'est-à-dire qu'ils interrogent sans cesse, ils remettent en question sans cesse l'existant, et donc ça permet d'être profondément vivant. J'ai toujours pensé que la question de la transmission, elle était première quand on est un artiste, en tout cas, on doit transmettre quelque chose et on doit surtout pas transmettre simplement ce qu'on sait faire. On doit pouvoir donner des outils aux jeunes gens. Moi, je dis toujours, quand ils arrivent dans l'école, vous êtes là pour me tuer, quoi. Mon travail à moi, il est déjà fini. Je suis déjà mort. Il faut que vous vous serviez des cendres de mon travail pour construire votre premier travail. C'est-à-dire pas être dans un travail d'admiration. Bon, il y a le bouquin extraordinaire de Jacques Rancière qui s'appelle Le Maître Ignorant, hein, qui est un bouquin qui raconte ça, qui raconte à quel point l'élève et le maître sont indissociablement liés et porteurs l'un de l'autre.
Mais le public, Stanislas Nordet, sans le renouvellement du public, sans les jeunes générations, il n'y a plus de théâtre. Il faut qu'ils viennent. Comment on fait?
Eh ben, on représente du théâtre d'aujourd'hui. Ça, c'est mon credo. C'est-à-dire, je pense que la parole d'aujourd'hui, aujourd'hui, on a des auteurs extraordinaires de Wajdi Mouawad à Falk Richter, en passant par Pascal Rambert. C'est-à-dire, dans le théâtre, il y a quelque chose d'incroyablement vif qui s'écrit. Comme quand Molière écrivait, c'était extraordinairement vif, parce que quand il écrivait le Tartuffe, à cette époque-là, il parlait d'un aujourd'hui brûlant. Pour moi, l'aujourd'hui brûlant, c'est pas de revisiter les classiques, c'est pas de retourner dans le patrimoine, mais c'est d'être dans une espèce d'affirmation délirante, finalement, du présent, du aujourd'hui, qui là parle à tout le monde et à toutes les générations. Je pense que parfois, on s'est trompé dans les théâtres publics en emmenant les jeunes à des matinées scolaires, à des trucs, en leur rabâchant du Molière, du Shakespeare. C'est dans les écritures d'aujourd'hui qu'ils peuvent trouver une raison de regarder le théâtre et de regarder le monde.
Et quand est-ce que vous l'avez compris, ça, que votre vérité, que votre mission, elle passait par la mise en scène d'auteurs contemporains?
Je crois que c'est Pasolini, c'est la découverte du théâtre de Pasolini quand j'ai commencé à faire du théâtre, parce que Pasolini, avec cette particularité d'être à la fois très ancré dans la tradition, c'est-à-dire il était nourri par le théâtre grec véritablement, mais il écrivait une forme de théâtre grec, de théâtre qui s'adresse au monde, à l'agora aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Donc je crois que c'est vraiment à travers la figure de Pasolini, son théâtre, son cinéma, qu'il y a quelque chose qui m'est apparu de cette urgence du contemporain, et puis une chose d'émotion aussi. C'est-à-dire, moi, je suis ému par ce qui se crée aujourd'hui. Je trouve extraordinaire l'étoile de Michel-Ange, de Leonardo da Vinci, mais je peux pleurer devant une toile de Soulages ou d'Yves Klein, parce que ce qui se peint aujourd'hui, ce qui s'écrit aujourd'hui, c'est ce qui nous nourrit véritablement et qui nous raconte qui nous sommes.
Quel lieu est-ce que c'est pour vous la scène de théâtre, Stanislas Nordet? En quoi est-ce un espace, un lieu essentiel?
C'est un lieu de surexposition, donc c'est un lieu de danger, c'est un lieu où on représente le monde, donc c'est un endroit extrêmement, dangereux, parce que tout peut arriver. Je trouve toujours ce qui est magique à la fois pour l'acteur et à la fois pour le spectateur. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui continuent à aller au théâtre, qui veulent y aller ou qui veulent en faire? C'est parce qu'il se passe quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instant, qu'on peut pas remplacer autrement. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça dans le meeting politique à une époque, c'est-à-dire, moi quand j'étais très jeune, mes parents m'emmenaient dans des meetings politiques, dans des trucs comme ça, et il y avait quelque chose, une fièvre comme ça, quelque chose qui pouvait arriver, qui, je pense, se passe plus de la même manière dans le meeting politique, mais le théâtre reste un endroit où il y a des gens qui sont là, vivants, qui parlent à d'autres gens, qui prennent le temps de les écouter. C'est quand même incroyable, c'est magique.
Et un levier de l'action culturelle aussi, et possiblement de l'action politique.
Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que on pouvait changer les choses. Alors, j'ai fait énormément j'ai bossé dans le 93, en Seine-Saint-Denis pendant des années. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle des ateliers de pratique artistique. J'ai travaillé auprès des jeunes, on va dire, loin de la culture et de l'art. Et je sais à quel point, quand on fait ce travail-là, on change immédiatement le regard des jeunes sur le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui agit tout de suite. Et ça, le politique, malheureusement, et les politiques n'ont pas assez compris la force incroyable de transformation que peut être l'art et la culture. Et on n'a pas assez de moyens là-dessus. On met plus de moyens dans Vigipirate, etc. Ce qui est très dommage, parce que je pense qu'il y a une force, la culture, c'est presque une force armée, quoi. On a, dans le bon sens du terme, arme, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut agir immédiatement et transformer les gens.
Et c'est un texte éminemment politique que vous mettez en scène, Stanislas Nordet, un texte écrit par ce jeune auteur, Édouard Louis, ce texte qui a tué mon père, pour lequel on l'avait reçu à ce micro l'année dernière et dont on parle beaucoup en ce moment, puisque Martin Hirsch a écrit un livre pour lui répondre. Je crois que ce texte d'Édouard Louis, en réalité, il est né de votre rencontre avec lui. Il vient de vous?
Oui, c'est ça. Alors, assez modestement, j'ai pas du tout écrit le texte, mais j'ai créé l'étincelle, on va dire. C'est-à-dire que j'avais fait au Théâtre National de Strasbourg une lecture du précédent ouvrage d'Edouard, Histoire de la violence. On s'est rencontrés à cette occasion-là, et puis à la fin de la rencontre, devant un verre de vin, je lui ai proposé à un moment donné, je lui ai dit, si tu as envie un jour d'écrire pour le théâtre, pour le TNS, bah tu es le bienvenu. Et il m'a dit, mais le théâtre est vraiment la sève de ma vie, quoi, ce que je ne savais pas. Je sais pas que le théâtre avait été si important pour lui dans son émancipation aussi, hein. Il a fait du théâtre au lycée. C'est quelque chose qui l'a aidé vraiment à se libérer.
La figure du professeur de théâtre qui
voilà,
revient effectivement.
Absolument. Et du coup, il m'a dit oui. Un an après, il m'a envoyé ce texte en me disant, voilà, j'ai écrit ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai lu. Ça m'a touché au cœur d'abord, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un retour au père, quoi, sans faire de mauvais jeu de mots, avec le retour à Reims de Didier Ribon, mais il y avait un retour au père que je trouvais assez bouleversant.
Et qu'est-ce qui en fait l'intérêt proprement théâtral?
Bah, la langue n'est pas la même, c'est-à-dire que on voit que il a écrit en pensant à l'oralité, à la scène. Il y a quelque chose qui change dans son geste d'écrivain. Il y a quelque chose qui avance, qui se déplace. Et puis il y a quelque chose de très intéressant sur cette figure du père qui est à la fois présent et absent, à qui le narrateur parle, mais que le père n'entend pas ou ne peut pas entendre. Donc il y a une mise en miroir qui était très belle. Il y a une complexité, on va dire, dans la construction du texte qui appelle le théâtre.
Et qui appelle aussi à la réflexion, au débat, à l'interrogation. Quand est-ce que vous avez pris conscience, vous, que le rôle de la culture et du théâtre, plus précisément, c'était peut-être d'abord cela, d'interroger?
Je pense que c'est ma rencontre avec Jean-Pierre Vincent au conservatoire, qui a été mon professeur, qui est un grand metteur en scène, un grand homme de théâtre. Je pense qu'avant de... Moi, j'ai fait des études d'acteur pour commencer, et pour moi, le théâtre, c'était jouer, c'était se divertir, c'était se faire plaisir. Et puis la rencontre avec Jean-Pierre, puis celle, on va dire, littéraire après avec Pasolini, m'ont montré que finalement, peut-être le théâtre, c'était le lieu... Oui, du divertissement, mais du divertissement de la pensée, que c'était un endroit où tout d'un coup, il y avait autre chose qui se mettait en jeu et où surtout il y avait de la parole qui circulait, donc de la pensée qui circulait. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire du théâtre, on va dire, dans ce qu'on appelle le théâtre public, dans le subventionné, c'est-à-dire un endroit où tout d'un coup la parole, le texte est premier et où tout d'un coup, finalement, moi ce que j'aime dans le théâtre, c'est de faire un théâtre qui soit pas forcément consensuel, mais dissensuel. C'est-à-dire, mon rêve, c'est qu'à la sortie de la salle de spectacle, les spectateurs ne soient pas d'accord sur ce qu'ils ont vu, qu'ils en discutent, qu'ils puissent s'engueuler, se battre presque, parce qu'il y a des idées qui sont contradictoires sur la scène.
Alors justement, celle qui, au risque de nous contredire, ne nous interroge pas du tout dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Et son actualité univoque, fermée, totalement butée, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 28 février?
Le César du meilleur film est attribué à Jusqu'à la garde...
Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Après avoir raflé 4 compressions, dont celle du meilleur film vendredi dernier, Jusqu'à la garde de Xavier Legrand a reçu hier le premier César des lycéens. Le long métrage sur la violence conjugale a été choisi par un groupe de 1276 élèves de terminale venus de 54 établissements différents. Bravo les genoux. Et maintenant, on retourne réviser le bachot. Après plusieurs jours de polémique, l'Ukraine a finalement annoncé hier qu'elle renonçait à participer à l'Eurovision, une décision qui intervient après l'abandon de la chanteuse Marouf, sélectionnée par le public, et les refus de ses potentiels remplacements. En cause, le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie depuis l'annexion de la Crimée en 2014, le diffuseur ukrainien demandait à sa candidate de porter sur scène un message critique envers Moscou, ce qu'elle a refusé. « Je suis une musicienne, pas un outil dans l'arène politique », a-t-elle dit.
À quel tour ?
Et c'est reparti pour un tour. La Française des Jeux a annoncé hier le lancement de la 2e édition de son loto du patrimoine. Au programme, un tirage exceptionnel de 13 millions d'euros, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase, le 14 juillet prochain, et la mise en circulation d'un nouveau jeu de grattage à l'occasion des Journées du patrimoine en septembre. L'année dernière, l'opération portée par l'ami Stéphane Bern avait permis à la Française des Jeux de verser 22 millions d'euros à la Fondation du patrimoine pour sauver les sites français en péril. On like.
Il y a des indices un peu partout en ville, des citations devant les librairies. C'est le signe que le Festival de l'Atlantide commence aujourd'hui.
Et l'Atlantide retrouvée, Nantes accueille dès aujourd'hui la 7e édition du Festival de l'Atlantide. Les mots du monde, rendez-vous des littératures de l'ailleurs et des lettres francophones portées par Alain Mabankou. Jusqu'à dimanche, la manifestation invite une cinquantaine d'auteurs venus de 4 coins de la planète, notamment l'académicien canadien né en Haïti, Dany Laferrière, pour une leçon inaugurale vendredi soir, encore David Diop, Zoé Valdez, Christine Angot, you go. Et l'homme de théâtre Stanislas Nord est invité de Boomerang ce matin pour Qui a tué mon père? La semaine prochaine au Théâtre de la Colline, on le disait, bientôt à Strasbourg et à Lausanne, un texte d'Édouard Louis dans lequel le corps occupe une place centrale puisqu'il nous parle du corps d'un homme brisé par le politique. En quoi le corps pour vous est-il nécessairement politique, Stanislas?
Les cendants, c'était cette expression fameuse, c'est-à-dire que ça se voit, c'est-à-dire que la violence du monde, elle agit directement sur les corps. Hein. Donc c'est ce qu'il raconte magnifiquement, Édouard, dans le livre, c'est-à-dire que le politique agit directement sur les corps et pas du tout indirectement. Et c'est bien pour ça qu'il en vient à citer les meurtriers putatifs de son père, ceux qui l'ont tué symboliquement, mais pas simplement. C'est-à-dire que chaque décision politique qui est prise agit sur les corps, et particulièrement sur les corps les plus fragiles, les plus exposés, les plus précaires, donc chez les gens qui ont le moins, ce qu'il appelle les dominés, hein, ce qui est un discours qui est absolument clair dans le bouquin sur le fait qu'il y a une partie de la société qui n'est pas impactée par le politique, c'est-à-dire quel que soit, à un moment donné, Edouard dit les dominants, que ce soit un gouvernement de gauche ou que ce soit un gouvernement de droite qui soit aux affaires, ça ne change pas grand-chose concrètement dans leur vie. Mais pour les plus fragiles, chaque décision, ces petites choses qu'on entend, vous savez, au début de chaque année, voilà ce qui change, l'augmentation du prix du gaz, l'augmentation, etc. Toutes ces choses-là qui n'ont l'air de rien pour certains sont des choses énormes pour d'autres. Et c'est finalement, pour moi, la beauté du bouquin, c'est que tout d'un coup, il empêche l'invisibilité, on va dire, de toute une partie de la société qu'on peut retrouver dans tout le mouvement, évidemment, des Gilets jaunes qui vient de naître.
Si on fait quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous à incarner ce corps au théâtre, dans la répétition que j'ai pu voir hier, votre chemise était ouverte, Stanislas Nordet, comme si c'était d'abord le corps qui racontait, le corps avant les mots.
Bah ça, c'est l'espace du théâtre aussi permet ça, hein. C'est ce qu'il y a de magnifique au théâtre, c'est que le corps de l'acteur, c'est un corps agissant, suant, à découvert. Valère Novarina disait qu'il faudrait rentrer dans le corps d'un acteur, l'autopsier d'une certaine manière au moment où il joue, pour voir tout ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose de très particulier. Donc finalement, porter le corps sur le plateau de théâtre, c'est l'exposer, c'est le regarder avec un regard clinique aussi.
Qu'est-ce qui raconte votre corps à vous, Stanislas Nordet?
Mon corps, c'est le corps que j'aime avoir sur un plateau de théâtre, c'est un corps qui se consume, hein. J'aime cette idée qu'on brûle, qu'on se brûle, voilà, comme le papillon devant la lumière, quoi. Pour moi, le corps de l'acteur, c'est celui-ci. En général, les textes que je choisis en tant qu'acteur d'incarner ou en tant que metteur en scène de mettre en scène, c'est des textes qui permettent de se consumer, de se brûler, pour que le spectateur soit amené, comme quand il va au cirque, finalement. Qu'est-ce qu'on aime quand on va au cirque? C'est le danger, c'est avoir peur que le trapéziste tombe à côté du filet. Et ben le plaisir pour moi du spectateur face à l'acteur, c'est peut-être cet endroit de, j'en viens au danger, quoi, que peut-être l'acteur va se casser la figure. Et ce qu'il y a de périlleux en tant qu'acteur dans ce texte, c'est que c'est une espèce de truc vertigineux à apprendre, déjà parce que c'est très très compliqué à apprendre le texte d'Edouard, parce qu'il passe plein d'endroits différents, et il se contredit sans cesse, il dit des choses, il va ailleurs, il se déplace sans cesse, il a une construction assez vertigineuse.
Il fonctionne effectivement par digression, parfois pour réexpliquer, pour recontextualiser. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps, vous, Stanislas Nordet, la première fois que vous êtes monté sur une scène de théâtre? Vous vous êtes brûlé?
Il y a un sentiment de perte, oui, un sentiment de disparition et de réapparition. Je suis pas du tout mystique, mais il y a quelque chose comme ça d'assez incroyable. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe quand on est sur scène, parce que on oublie tout et on oublie rien, quoi. Il y a un sentiment de découverte, et puis ce truc incroyable que tous les soirs il faut remettre le couvert, c'est-à-dire que rien n'est fait. Les spectateurs qui viennent le lendemain, ils ne savent rien, ils ne sont pas conquis, il faut tout refaire tous les soirs. Et ça, je dirais que c'est un truc incroyable. Quand on travaille au cinéma, bon bah, on fait une prise, c'est dans la boîte, c'est fait, ça sera, tous les spectateurs verront la même chose, etc. Au théâtre, le spectateur sait et l'acteur sait que tout est à refaire chaque soir, donc que rien n'est congelé, n'est définitif, que tout est à reconstruire. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on est dans le vivant, dans le présent.
Et la chorégraphie du corps que vous proposez dans votre mise en scène, elle change pas, si?
Ça change tous les soirs, parce qu'il y a à la fois il y a quelque chose qui est, on va dire, très fixe. Il y a des décisions qui sont prises, on se tiendra là pour être dans cette lumière, mais en même temps chaque soir il y a quelque chose d'autre qui se passe, parce qu'on n'a pas passé la même journée avant, parce que on n'a pas les mêmes choses dans la tête, parce que les gens dans la salle toussent pas au même moment, ne rient pas au même moment. Donc il y a quelque chose qui est à la fois profondément immuable et profondément fragile. fragile, éphémère et qui se renouvelle à chaque fois.
Je parle de chorégraphie parce que la danse est très présente dans le texte d'Édouard Louis. Le plaisir qu'ils éprouvent quand ils dansent, c'est quelque chose qu'ils partagent sans même le savoir, son père et lui. C'est le moment où leur corps se libère, pour ainsi dire, où ils s'affranchissent des jugements de la norme. C'est ce que je trouve personnellement le plus beau dans ce texte. Qu'est-ce que c'est un corps libre pour vous, Stanislas?
C'est un corps qui n'a pas peur, c'est un corps qui réussit à échapper au diktat de l'éducation. Hein. La question de l'éducation, elle est là, hein. C'est-à-dire à un moment donné, Édouard interroge aussi cette question de la masculinité notamment, c'est la façon dont les garçons sont absolument, cette injonction à être un homme qui crée des conditionnements dont on ne peut plus sortir après. Donc un corps libre, c'est un corps qui arrive à s'affranchir de ce qu'on lui a appris, de ce qu'on lui a dit de faire. Et un corps libre, c'est forcément un corps qui se rebelle, qui est dans un geste de rébellion.
Y a-t-il qu'au théâtre où vous êtes libre, vous ?
Non, je suis libre un peu partout.
Alors soyons libres. On va parler de liberté, d'affranchissement, de père, d'amour aussi, juste après John Lennon. Tiens, Working Class Hero en 1970, sur l'album Imagine. Vous êtes sur France Inter avec Stanislas Nordet. Vous écoutez Boomerang.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est une grande tige, en fait, un peu tourmentée, tout en délicatesse et tension, le regard inquiet, mobile, sur le qui-vive, derrière ses grandes lunettes, le cheveu gris, ondulé de part et d'autre de son front pâle, le visage très fin, parcouru de quelques rides sous lesquelles on perçoit toujours, avec précision, le profil de l'adolescent qu'il était autrefois, entre le jeune poète de Rilke, le Tadzio de Mort à Venise et grand-mère Feuillage, avec son gros pull marron clair ce matin, l'acteur et metteur en scène, directeur du théâtre de Strasbourg, Stanislas Nordet, invité de Boomerang ce matin pour Qui a tué mon père, ce monologue d'Edouard Louis, on en parlait. Ce qu'on n'a pas encore évoqué et ce qui frappe pourtant, c'est effectivement l'amour qui traverse ce monologue, l'amour d'un fils pour son père, l'amour informulé aussi d'un père pour son fils. Ça vous a parlé, ça, vous ?
Ben, il y a des coïncidences parfois, hein, et il se trouve qu'au moment où Edouard m'a envoyé ce texte-là, j'ai revu mon père que j'avais pas vu depuis 33 ans.
Quel cinéaste, Jean-Pierre Mocky.
Absolument, et évidemment, tout résonnait différemment, hein, puisque le bouquin d'Edouard est un retour au père, comme je le disais. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup une découverte, une redécouverte. Il y a ce passage extraordinaire où il dit j'ai oublié presque tout ce que je t'ai dit quand on s'est vu la dernière fois, mais je me souviens de tout ce que je ne t'ai pas dit. Et les expériences que j'ai en revoyant mon père, c'est ça. À chaque fois, c'est en sortant des rendez-vous avec lui, je me souviens de ce que je ne lui ai pas dit. C'est-à-dire qu'il y a cette très belle chose sur ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne peut pas dire. Donc oui, il y avait quelque chose d'incroyablement contemporain dans mon expérience de vie quand j'ai lu le livre d'Edouard par rapport à ma propre vie. Oui.
C'est sa voix, celle de Jean-Pierre Mocky, que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin. C'était à ce micro, un 29 novembre, il y a 2 ans et demi.
La mort est quelque chose qui ne me fait pas peur, parce qu'il y a des gens qui ont peur de la mort, et c'est idiot d'avoir peur de la mort. Je trouve qu'il faut mourir, tout le monde meurt, et finalement, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passera dans 20 ans, donc j'aimerais vivre jusqu'à 120 ans. Alors, je ne suis pas encore centenaire, il me reste une vingtaine d'années pour être centenaire, mais aujourd'hui, il y a 270 000 centenaires en France, et alors, figurez-vous que j'espère être un de ces centenaires. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est agréable de penser qu'on peut devenir centenaire, parce que nos aînés ne pouvaient pas le penser. Et quand je pense à tous mes amis comme Bourville, Francis Blanche, Jacques Villeray, qui sont morts à la moitié de leur vie, c'est-à-dire à 50 ans, c'est quand même terrible de mourir à 50 ans.
Jean-Pierre Mocky, dans Boomerang, votre père Stanislas Nordet, vous le reconnaissez dans ce qu'il dit, dans sa voix ?
Oui, c'est-à-dire, c'est quelqu'un d'incroyablement là, d'incroyablement vivant, qui ne vit que pour son art. Donc ça interroge la question du père aussi, mais voilà, il a mis au monde des enfants, mais aussi un certain nombre d'œuvres d'art, et ça c'est une vraie belle question finalement. Voilà, qu'est-ce qu'on met au monde ? On met pas simplement au monde des êtres vivants, on met aussi au monde des œuvres.
Question qui vous habite, vous aussi ?
Oui, mais moi j'ai toujours, j'ai pas d'enfants et j'ai beaucoup transmis, c'est-à-dire la part de la pédagogie, j'ai énormément enseigné et donc je pense qu'on transmet, qu'on donne aux autres, qu'on transmet de mille manières, il y en a pas une seule et donc les choix de vie sont très divers.
Et qu'est-ce qu'il vous a appris, votre père, à vous ?
Bah. Dans l'absence, on va dire, parce qu'il y a toujours ça, hein, donc on a vécu très très peu de choses ensemble, on est en train de se découvrir, de se redécouvrir. Et il m'a appris justement à me construire ailleurs. L'absence du père, finalement, permet de trouver une forme de liberté qu'on n'aurait pas forcément trouvée autrement. Mais là où je le reconnais, finalement, et où je me reconnais, c'est dans une espèce de boulimie de la vie, de boulimie de travail, de boulimie de vivre. Aujourd'hui, il ne vit que pour créer, finalement, et à l'âge qu'il a, je trouve ça extraordinaire. Il a rien perdu de l'étincelle du geste de la création. Et voilà, moi j'ai toujours pensé que mourir sur scène comme Molière, c'était ce qui pouvait arriver de mieux pour quelqu'un qui a choisi de travailler sur la question artistique.
Puis vous ressemblez, vous savez ?
Je ne sais pas, mais si vous le dites, je vous crois.
C'est un texte traversé par la question de la famille, de l'héritage, mais aussi de la disparition que vous avez choisi de nous lire ce matin, un extrait de la pièce Par les villages de Peter Handke, que vous aviez mis en scène il y a 6 ans, je crois. On vous écoute ?
Mm-hmm.
On vous écoute.
Ici, Je suis le grouillot. Toute la journée, on m'expédie d'une tâche à l'autre. Je suis le grouillot parce que je suis bon à tout et assez fort pour presque tout faire sans l'aide de personne. Être grouillot, ça veut dire être séparé de l'équipe, se déplacer du matin au soir, monter et descendre, aller et venir du chaud au froid, d'une machine à l'autre. Tu as vu, on n'utilise presque plus d'outils, rien que des machines. Ce chantier est grand, et le prochain sera encore plus grand. On disait autrefois le peuple des charpentiers, parce qu'un seul était trop faible pour presque tout. Pour presque tous les gestes, il fallait être plusieurs. Ce que je fais est tout aussi difficile, mais ce n'est plus un art. J'aime travailler. Sans travail, je n'y tiens plus, je m'agite, je me disperse, mais une fois par jour, j'aimerais tout de même, disparu dans la boue, visage dans la boue, être de la boue, dans de la boue. Au fond, tous ici, nous ne sommes que des grouillots. La semaine prochaine, on va nous mettre sur le lotissement numéro 20. Aucun problème à résoudre. On sait faire tout ce qu'on a à faire. On n'apprend plus rien. Souvent, j'ai le désir d'apprendre encore quelque chose. Quand dans les vallées, je regarde nos bâtiments terminés, je le vois bien, quelque chose manque. Peut-être comme autrefois une certaine courbure dans la charpente. Non pas un ornement extérieur, une ligne de finesse plutôt, dans les nervures. Je n'ai pas du tout honte de ces constructions neuves, je suis même un peu fier d'y avoir participé, mais tout de même, chaque fois il me manque un petit détail qui serait le couronnement du tout. Il manque l'arrondi, oui, il manque l'art. Depuis toujours nous avons été les esclaves, par moments nous avons eu le droit d'être les ouvriers. Maintenant, on est redevenus les esclaves, tous ici. Même les architectes ou les scientifiques qui ont analysé le sous-sol, même le ministre qui va bientôt inaugurer le bâtiment, aucun d'entre nous n'a une activité digne d'un être humain.
Merci Stanislas Nordet, merci beaucoup d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Qui a tué mon père d'Edouard Louis, c'est du 12 mars au 4 avril au Théâtre de la Colline, puis du 2 au 15 mai au Théâtre National de Strasbourg, puis également à Lausanne à l'automne et dans bien d'autres villes encore après. On l'espère. Tout de suite les médias, Dorothée Barba, juste après ça.
Presque morte. Faire, faire, faire.
Les gens, quand ils sont les uns dans les autres, mieux sec sur France Inter et tout de suite c'est l'heure des médias avec Dorothée Barba. L'instant M, vous m'entendez Dorothée?
Bonjour Augustin, je vous entends, je prends le relais et le micro jusqu'à 10h. À demain.